c'est ça.
Qui présente ses services en matière de le doux, on va aborder le doux là ensemble.
Ouais, on est donc dans la sécurité opérationnelle. Voilà, c'est
l'opérationnel, ça. Exactement. Dans un premier temps, est-ce que tu peux peut-être te présenter et présenter aussi la société Advance?
Je vais faire vite parce que
je sais qu'on va
être bavard. Non, mais comme le disait Peter, ça fait bientôt une vingtaine d'années que je travaille dans la cybersécurité, passionné de la cyber et notamment sur le sujet du SOC qui, depuis des années, a énormément évolué. Et j'ai rejoint Advance il y a 2 ans et demi. Alors peut-être qu'au dîner, je pourrais vous expliquer pourquoi j'ai rejoint cette structure. Et je suis en charge du développement de toutes nos activités autour de la sécurité opérationnelle. Donc en gros, j'interviens dans des présentations comme ça autour du SOC, de l'évangélisation, du conseil, et puis surtout beaucoup de réponses à des appels d'offres. C'est-à-dire que mes nuits sont très chargées. Je réponds aux appels d'offres des clients pour leur proposer des dispositifs de sécurité opérationnelle, justement être dans le doux et de mettre sous surveillance leur système d'information. Voilà.
Donc tu es dans le SOC depuis toujours?
Oui, c'est ça, je suis un peu tombé dedans, on peut dire ça, j'y ai perdu mes cheveux. Et puis j'ai rejoint Advance, 300 personnes, on est basé à Lille, hein, donc c'est une structure qui est très bien implantée au niveau européen, puis on a un partenariat très fort avec CSM. On en parlera un petit peu après, pourquoi ce partenariat? Parce qu'on a besoin de proximité, on a besoin d'industrialisation. Et sur les 300 personnes hein, dans cette société qui est un pur player en cybersécurité, on ne fait que de la cyber, on est tous des passionnés. On a plus de 120 personnes qui sont dédiées aux activités justement de sécurité opérationnelle, vous voyez, qui surveillent tous les jours des hôpitaux, des industries, des entreprises pour voir s'il n'y a pas des menaces sur leur système d'information et surtout les aider à faire face à ces menaces.
Voilà. D'accord. Moi, j'ai une image du SOC comme étant un gros machin qui coûte très cher, qui est réservé à certaines entreprises. Ouais. De grande taille, forcément, qui ont des grandes ressources, des grosses ressources. C'est plus vrai.
Alors, c'est plus vrai parce que la menace a changé. Donc, je vais parler de la menace 2 minutes, mais avant, c'était le cas. C'est les banques qui ont commencé à se doter de moyens de capter de l'information, de la triturer avec des outils.
Et en faisant ça de manière autonome.
C'est ça. On recrutait des équipes, on avait nos propres équipes sécurité. Et puis, il y a un premier levier qui est arrivé, c'est qu'on est dans l'incapacité aujourd'hui de trouver assez de ressources en cybersécurité. Donc, on a commencé à externaliser ce service. Donc, il y a des prestataires comme Advance CSM qui sont arrivés en disant « nous, on peut vous aider ». Alors, il y en a qui le font encore en interne, c'est les derniers bastions qui restent. Puis quand on leur demande de faire du 24/7, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc forcément, aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Et d'ailleurs, dans les états des lieux qui sont en place, un des doux qu'on demande de faire très rapidement, c'est de mettre en place de la sécurité opérationnelle. Et puis, il y a la menace qui a changé. Alors, je ne vais pas en parler trop longtemps, parce que là, sinon, si vous mettez une pièce dans le jukebox, ça va partir pendant quelques heures. Juste 4 constats sur la menace. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas du copier-coller d'Internet, de choses qu'on a vues et qu'on a compilées. C'est le résultat de l'année 2021 pour Advance CSM. Donc, on a pris tous nos experts, c'est 500 tests d'intrusion. C'est plus d'une quarantaine d'interventions CISERT hein, sur des grosses crises majeures qu'on a vues chez des clients. C'est plus de 70 clients sous surveillance constante en 24/7, dont dans un des clients, il représente 70 hôpitaux en Europe. Donc voilà, c'est tout ça qu'on a pris. Puis on s'est dit, s'il y avait 4 choses à retenir sur la menace, lesquelles c'est? La première chose, vous vous en doutez, c'est que le phishing finalement et la compromission de compte sont les premiers vecteurs de pénétration d'un compte. Donc c'est l'utilisateur notamment qui clique sur le mauvais lien et qui se fait piquer son login et son mot de passe. Et puis avec ça, ils peuvent pénétrer dans le système. Alors ça paraît assez évident, il y a plein de systèmes, plein de choses à faire en face. Moi, ça me pose un problème au niveau du SOC, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a un login et un mot de passe légitime, quand il rentre sur le système d'information, son trafic est légitime. Donc comment déjà je me mets à détecter quelqu'un qui paraît légitime en rentrant dans mon système d'information? C'est plus le mec qui frappe à la porte et qu'il faut faire entrer, c'est quelqu'un qui passe, qui se propage. Donc 80%, et du coup, 80% des SOC sont complètement aveugles par rapport à ce type de menace. Donc déjà, ça coûte cher.
Ouais.
Si en plus, ça gère que 20% de la menace, c'est compliqué à le défendre devant un système, devant un conseil d'administration. Deuxième chose, on l'a très bien vu avec Log4j, on a une explosion de ce qu'on appelle les architectures qui s'appuient sur des technologies type systémique. On a tous du Microsoft, on a tous des technologies qui sont partout les mêmes. Quand il y a une faille qui sort, c'est le bordel partout. Donc nous, c'est la crise. Hein. Noël, vous en parlez aux équipes SOC, dans CSM, ça a été l'enfer, hein, parce que Log4j, il faut le gérer. 100% de nos clients ont subi une attaque qui essayait d'exploiter Log4j dans les 10 jours qui ont suivi la vulnérabilité. C'est hyper concentré. Il faut pouvoir répondre à ces problèmes de failles systémiques qui, de toute façon, seront systématisés. On parle en plus d'attaques de la supply chain. Il y a plein d'autres choses derrière. Donc, c'est un peu compliqué à gérer ces vagues d'attaques et de réponses qu'on va faire pour nos clients. Troisième chose, un peu une évidence aussi, le cloud, les problèmes de configuration, le shadow IT, les métiers qui commandent son serveur à gauche et à droite. Je dirais même que le problème, il est déjà de maîtriser sa surface d'exposition. Donc là, on a aussi des techniques de cartographie, il y a plein d'outils qui nous permettent de le faire. Mais c'est aussi un état de la menace aujourd'hui, c'est qu'il y a des gros problèmes de config. Et puis le dernier point, qui est certainement, je pense, le plus important et qui fait que le SOC s'est démocratisé, pour répondre à ta question, c'est que le temps entre le moment où je détecte une attaque et le moment où je dois répondre, ou dit autrement, entre le moment où quelqu'un pénètre dans mon système d'information et où il va propager une attaque, ce qu'on appelle le temps de propagation, en quelques années, on est passé de mois en semaine à en jours. Donc aujourd'hui, s'il y a une chose à retenir sur le pourquoi le SOC se démocratise, c'est qu'il faut agir plus vite que l'adversaire. En gros, vous avez moins de 2 heures entre le moment où ça pénètre et le moment où il faut le dégager. Sinon, vous allez avoir des dommages, début de chiffrement, début de perte d'activité, de la fuite de données, des choses comme ça. 2 heures, c'est hyper court. Et aujourd'hui, il y a des outils, il y a des méthodes, on va en parler un petit peu pour faire ça. Mais du coup, il y a une prise de conscience, il nous faut un SOC, il faut détecter. Et puis, là où le SOC a changé, c'est qu'il faut détecter, mais il faut aussi réagir.
Voilà, donc c'est plus que détecter. Au début, c'était détecter uniquement.
Et ouais, avant, on achetait plein de systèmes, on les empilait, ça faisait plein d'alertes. Et puis, et puis, on prenait toutes ces alertes, on les envoyait aux clients. Et puis, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, avec ces équipes de prod, qui sont des moyens illimités, comme disait monsieur tout à l'heure, on a toutes les équipes, on répond aux tickets. Et puis, on avait un syndrome un peu classique. Je détecte un trafic illégitime sur votre firewall. Je décide qu'il faut bloquer cette adresse IP. Moi, je fais un beau ticket. En moins d'une heure, il y a le super ticket qui est envoyé au client. Il faut bloquer cette IP sur le firewall. Puis 48 heures après, on l'appelle. Bon, c'est bon, vous l'avez bien bloqué. Oh, pas le temps. J'ai une mise en prod, j'ai les sauvegardes qui ne fonctionnent pas. J'ai une mise en production des métiers qui est hyper urgente. Ton IP, je la bloquerai plus tard. Ouais, mais c'est trop tard, en fait. L'IP, il fallait la bloquer dans les minutes ou l'heure qui suivait l'attaque. Ça y est, s'il y a eu quelque chose, c'est fait. Donc, le besoin s'est déplacé et c'est un des grands changements du SOC de ces 2-3 dernières années. Ce n'est plus un problème de détection, c'est un problème de détection et de réaction. Alors, il y a un outil qui est arrivé, qui a un peu chamboulé tout ça, qui s'appelle l'EDR, l'Endpoint Detection and Response. C'est le premier outil qui a été conçu pour détecter et pour répondre. Et là, c'était hyper intéressant, parce que nous, en tant que prestataire de service, pour la première fois, on a dit à un client, je peux détecter et je vais même pouvoir répondre à la place de tes équipes si tu m'en donnes l'autorisation. Du coup, je vais être hyper réactif et je vais pouvoir gérer ce laps de temps entre l'incident, la pénétration et le moment où je dégage l'adversaire.
J'imagine que pour le marché, ça, c'est un avantage très important.
Très important.
Qui donne un nouvel essor au SOC.
Oui, ça donne un nouvel essor clairement au SOC. Et puis, ça répond à ce que j'aime bien cette phrase du docteur Eric Cole. Alors, je pense que vous le connaissez, c'est un grand pont de la cyber qui a fait les 10 indicateurs sécurité. Mais j'adore cette phrase parce que c'est le challenge du SOC aujourd'hui. La prévention, c'est idéal. Vous avez tous des systèmes d'information qui sont évidemment hyper bien patchés. Vous faites de la sensibilisation au top, vos utilisateurs ne cliquent sur aucun lien. Vous avez une veille en vulnérabilité, du log4j, ça a été les doigts dans le nez. C'est idéal, on en est tous là, on le sait bien. Par contre, la détection, c'est un must. Aujourd'hui, il faut détecter. Si vous n'êtes pas capable de détecter quelque chose sur votre système d'information, c'est terminé. Par contre, la détection sans capacité de réponse, ça ne sert à rien. Ouais. Souvent, lorsque je fais un peu de sensibilisation, je dis un système d'alarme dans une maison, c'est très bien. Si les portes et les fenêtres restent ouvertes, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Et si personne n'entend le système d'alarme, ça ne va servir à rien. Vous avez beau avoir de l'alarme volumétrique, infrarouge, tout ce que vous voulez, s'il n'y a personne contre le signal, ça ne sert à rien. C'est exactement ce sujet-là. Et le SOC s'est déplacé vers cette problématique de faire de la détection, de faire de la réaction et même de faire de la prévention. La gestion des vulnérabilités, par exemple, qui était un sujet un peu à part de prod, commence à rentrer dans le SOC parce qu'on se rend compte qu'une alerte comme log4j, même s'il n'y a pas une tentative vraiment de pénétrer dans le système d'information, ça reste un incident de sécurité qui doit être piloté comme un incident de sécurité. Donc aujourd'hui, gestion de vulnérabilité, détection, remédiation, tout ça, c'est la mission du SOC, ce n'est plus que de la détection. Ouais.
Et là, c'est toujours adressé aux grosses entreprises ou pas nécessairement ? Alors, de quelle taille je peux rentrer dans un SOC ?
J'allais dire, il y a des offres aujourd'hui sur le marché, il y a des outils qui permettent de tout le faire. Alors, parlons un peu des outils. Oui. Normalement, vous connaissez déjà tous ces acronymes et ce jargon. Hein. Alors, je ne vais pas les expliquer maintenant. Je ferai un plaisir de le faire au moment du dessert, si ça passionne tout le monde. Mais il y a effectivement déjà, faut le comprendre, les éditeurs qui vont déjà dire à tout le monde,
bien sûr,
ma solution, je me rappelle des assises de la Monaco il y a 2-3 ans, il y a des kakémonos, il y avait marqué la fin du ransomware, hein, carrément. C'est-à-dire que là, on était, alors on achète, c'est bon, plus de ransomware. Je ne les ai pas revus d'ailleurs depuis 2 ans, je ne sais pas, ils n'ont peut-être pas réussi à fonctionner. Mais effectivement, il y a myriade d'outils et bah, forcément, en fonction du budget, en fonction surtout des ressources qui peuvent les opérer, c'est différent. Tout à l'heure, ça a été très bien dit. Avoir des technos, c'est bien. Empiler des technos, ça devient un problème. N'avoir personne derrière les écrans, ça ne sert à rien. On a un exemple d'entreprise récente, un 6 heures, tout le monde est intervenu. L'alerte était montée dans les systèmes, ça avait popé partout, c'était rouge fluo, mais personne n'était derrière les écrans. Bon, ransomware, boum, et on a parlé d'un million d'euros à peu près hein, pour remettre tout le truc d'aplomb en perte d'exploitation. Donc catastrophique. Pourtant, il suffisait d'être derrière les écrans. Alors, il y avait du CIEM, il y avait du SOAR, il y avait des instituts. Je ferai juste un petit focus sur l'EDR. L'EDR, j'en parlais tout à l'heure, et on en reparlera un petit peu plus tard. C'est clairement un outil, un must-have. Voilà, il faut l'avoir aujourd'hui, et un EDR digne de ce nom. Parce que l'EDR a justement l'avantage de faire de la prévention, de faire de la détection et de faire de la réaction. Donc vous chopez le triptyque d'entrée. Alors que lorsque vous prenez un CIEM, bah, ça ne fait que de la détection. Donc ça peut être intéressant effectivement d'avoir d'avoir cette première brique opérationnelle. Et les clients qui commencent leur SOC avec des petits budgets, hein, tout le monde n'a pas les budgets pour avoir des grands SOC et qui souhaitent l'externaliser, dans 90% des cas, on leur met un EDR et on manage l'EDR pour eux. Voilà. C'est vrai qu'on va voir que ce qui se passe sur les endpoints, mais on va être capable déjà de voir le principal menace d'aujourd'hui, hein, tout ce qui est ransomware, ainsi de suite.
Les menaces, on les voit par l'EDR ?
Sur le endpoint. Le endpoint, ça se cristallise beaucoup. Mais il y a l'utilisateur qui est derrière, c'est là qu'on chiffre les données. Alors, ce que je dis endpoint, c'est le laptop, hein, le desktop, mais c'est aussi le serveur. Hein, voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est pas les équipements réseau et ainsi de suite. Même si la menace vient par le réseau, à un moment, pour se propager, elle va attaquer les serveurs et les postes de travail. Et l'EDR est capable d'isoler des menaces et d'éviter que ça se propage. Donc, je parle de retour sur investissement qui est extrêmement intéressant. Alors, il faut forcément une surveillance 24/7. Hein, les statistiques disent qu'en gros, 80% des attaques, c'est entre le vendredi et le samedi. Hein, ils n'attendent pas que les réunions du lundi matin soient terminées et puis qu'à 14h, allez, on va lancer l'attaque, on est lundi. Non, c'est le week-end, c'est la nuit. Donc, il faut derrière opérer. Donc, oui, un EDR, mais un EDR managé en 24/7, en continu par des experts, parce que ça reste une technologie où il faut mettre les coups de tournevis quand même pour que ça marche bien. Voilà.
Là, donc, oui, les principes fondateurs. Mais je voyais aussi qu'il y avait une évolution en matière de SOC. On parle de SOC as a service.
Oui, alors, là, on surfe un petit peu sur la terminologie, service, la terminologie éditeur.
C'est un peu marketing, non ?
Oui, c'est un peu marketing, mais il y a un concept bien précis derrière. Le SOC as a service, d'arriver avec l'ensemble des moyens techniques, organisationnel, fonctionnel, pour pouvoir mettre en place un service de SOC. Donc avec les people, les gens, hein, comme le CyberCentre qui est basé à Lille, d'Advance qui va opérer en 24/7, les outils qu'on met à disposition. Et on se rend compte que les clients sont de plus en plus dans l'acquisition d'un service. Voilà. Au lieu d'acheter plein de techno, bah, je vais faire confiance à une approche par le service. Donc, venez me faire le SOC avec vos outils, vos méthodes, vos techniques. C'est là que nous, on a une approche bien spécifique sur comment est-ce qu'on veut dérouler un SOC. Vu le timing, je ne vais certainement pas rentrer dans le détail, mais je vais juste parler des quatre chapeaux. La première chose, c'est qu'on est persuadé aujourd'hui, en tout cas, ça, c'est une conviction très forte, et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, qu'avant tout, c'est un problème de data. Et il faut d'abord collecter la data, de la data de qualité, il faut l'enrichir, la normaliser. Parce que même si vous voulez appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle, j'ai découvert ça quand je suis arrivé chez Advance, pour utiliser un algorithme, il faut de la data structurée. Moi, je pensais qu'on mettait tout à un endroit, on disait, vas-y, l'IA, tu vas me trouver l'incident là-dedans. Non, il faut que ça soit structuré, il faut que ça soit bien normalisé. Donc déjà, nous, avant de commencer un projet SOC, on va déjà parler d'un projet de data. On va mettre un puits de log. Alors, nous, on est sur de la technologie élastique, mais ça peut être une autre techno. Est-ce qu'on le met dans le cloud ? Est-ce qu'on le met chez vous ? Et ainsi de suite. Et on va tout mettre dedans. Des alertes, des logs, vos référentiels, vos listes, vos VIP, vos adresses IP, et ainsi de suite. Et une fois qu'on va avoir tout là, on va le normaliser, on va l'enrichir. On rajoute des tags qui nous disent où est-ce que c'est géographiquement, à quoi il sert, quelle est sa pondération, métier, son risque, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a cette donnée, bah après, on va parler de détection. Et là, on peut utiliser les plateformes XDR, les CIEM et tout ce qu'on veut. D'accord. Mais au moins, ça reste. Deuxième pilier, alors certains de nos confrères disent que ce n'est pas le cas. Nous, on en est persuadés. Aujourd'hui, un SOC de nouvelle génération doit utiliser de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un nom un peu ronflant. On va parler plutôt de machine learning, de deep learning, capacité à traiter de la data en apprentissage. Juste un chiffre qui le prouve, 25% des incidents qu'on détecte de priorité 1 pour nos clients sont issus de nos algorithmes de machine learning. Et justement, tout à l'heure…
Ce sont vos algorithmes ?
Oui, on a des data scientists. Ouais, en fait, les outils embarquent de l'IA. Hein, si vous allez voir les éditeurs, ils vont dire « il y a de l'IA, il y a de l'IA ». Nous, on développe nos propres algorithmes avec une équipe de data scientists. Hein, celui qui dirige tout ça, il étudiait les étoiles et les galaxies. Bon, un jour, il s'est dit « je vais faire autre chose ». Voilà, il s'est mis à la cybersécurité. Mais c'est le même principe, on a masse de data. Il faut pouvoir aller chercher l'aiguille dans la petite botte de foin qui est dans la galaxie quelque part. C'est exactement ça qu'on a mis en place et ça fonctionne très très bien et ça permet surtout de faire ce qu'on appelle de la détection comportementale. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que ça serait certainement le deuxième point le plus essentiel de la présentation. Toutes les solutions de détection que j'ai mis, les XDR, les SIEM et ainsi de suite, détectent principalement avec ce qu'on appelle des règles avec des seuils. S'il se passe ça, à ce moment-là, tu mets en place une détection par rapport à cette menace. Donc, vous partez du principe que vous connaissez toutes les menaces potentielles et qu'en face de chaque menace, vous développez une règle. Et que si ça arrive, vous voulez être prévenu, ce qu'on appelle des règles avec des seuils. Les Q-radars, les Splunk, qui fonctionnent tous sur ce même principe. Nous, on n'a pas prétention de connaître tous les types d'attaques et tous les types de menaces, notamment si c'est un compte qui est compromis et qui est légitime, parce que alors là, on n'est même pas dans l'attaque qu'on préfère. L'IA, le machine learning, va permettre de faire ce qu'on appelle de la détection comportementale. Tout d'un coup, ce compte ne se comporte pas comme habituellement, l'horaire de travail, le trafic, l'IP où il se connecte et ainsi de suite. Et ça va nous permettre de voir ce qui se passe au comportement. Revers de la médaille, quand ça sonne, on ne sait pas trop pourquoi, mais quand on fouille, dans 95% des cas, c'est qu'il y a vraiment une déviance dans le comportement. Et on peut trouver, par exemple, des comptes compromis parce que l'utilisateur, j'ai vu un attaquant, par exemple, il a juste testé le login et le mot de passe pour savoir s'il venait de l'acheter sur le dark web avant de faire une attaque. L'utilisateur, c'est la première fois qu'il se connectait, qu'il se déconnectait. Première fois que ça arrive, premier bruit faible, deuxième bruit faible, une IP qu'on ne connaissait pas, ça s'est mis ensemble, compte peut-être compromis, on a vérifié, c'était un compte compromis. Okay.
Et pourquoi vos algorithmes ?
Alors, pourquoi nos algorithmes ? Parce que la data évolue tout le temps, parce qu'on a besoin d'être maître de ce qu'on veut faire derrière, parce que nos clients nous demandent de plus en plus de faire du métier, c'est-à-dire de ne plus être en train de surveiller des firewalls, des proxys ou des choses comme ça, mais de surveiller des données qui sont métiers. On surveille par exemple aujourd'hui la plateforme de Doctolib pour tous les rendez-vous. Doctolib, c'est du 100% applicatif, hein. Il n'y a pas de firewall, de proxy, d'annuaire et de choses comme ça. C'est des logs métiers. Donc, il faut avoir la main. J'ai rencontré La Poste il n'y a pas longtemps, qui est certainement le plus gros SOC aujourd'hui sur la technologie Splunk. On parle un peu, parce que moi, ce n'est pas trop les modèles que je pousse. Et je leur dis, vous faites comment avec l'IA, machine learning, vous utilisez le module de Splunk ? Bah non, on ne va pas utiliser le module de Splunk, ce n'est pas fait pour la cyber. Bah, on a embauché des data scientists, et puis ils développent des algorithmes, et puis ils vont fouiller dans le puits de log. Je dis, ah bah tiens, quoi, on commence à converger vers la même méthode, et du coup, on fait une démarche commune, ils nous disent où ils en sont, on dit où on en est, puis on évite de faire deux fois le même boulot, et on avance plus vite ensemble. Voilà, c'est ça le sujet du data-centric. Troisième chose, l'humain, c'est indispensable. Il faut avoir aujourd'hui un prestataire qui est organisé, ce qu'on appelle en fusion center. C'est-à-dire qu'il faut au même endroit des gens qui détectent, des gens qui attaquent, des gens qui font de la data science, des gens qui maîtrisent les technologies. Il faut les réunir au même endroit parce qu'il faut un maximum d'interactivité entre toutes ces personnes. Et le quatrième point, qui est encore un point essentiel dans notre approche du SOC aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Dit simplement, j'apprends ce qui s'est passé d'un client, mais 70 autres clients en profitent instantanément. Rien que dire ça, c'est hyper compliqué. Parce qu'en général, les prestataires, ce qu'ils font, c'est qu'ils déploient, par exemple, des Splunk dans le cloud. Avec chacun, il met le set de règles dans le SIEM, ils les font tourner. Je vais mettre à jour une règle. Ah, elle est bien celle-là, elle intéresserait tous mes clients. Il faut que j'aille me connecter sur toutes les interfaces, autant de clients que j'ai pour les mettre à jour la règle. Nous, les règles, on les a factorisées. Il y a un set de règles qui est commun à tous nos clients. Log4j, par exemple, on met à jour la règle pour Log4j, j'appuie, diffuser sur tout le monde instantanément. J'ai un IOC, j'appuie, diffuser sur tout le monde instantanément. C'est ça le concept de l'intelligence collective. Dans les faits, c'est 98% des pentests détectés sur ces deux dernières années. Si demain, vous allez acheter un SOC à un prestataire, je pense que vous êtes en droit de lui demander quelle est sa qualité de sa détection. C'est ça que vous achetez, finalement. Et c'est un critère qu'on ne suit pas beaucoup. 98%. Donc ça veut dire plus de 70 tests d'intrusion qui ont été faits. Il n'y en a qu'un seul qu'on a raté en deux ans.
C'est pas évident à évaluer non plus.
C'est pas évident. Oui, puis c'est un peu du déclaratif. On peut aussi dire ce qu'on veut derrière, je suis d'accord. Autre chose qui est indispensable pour un SOC, c'est tout en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle le MTTR, c'est le temps de réaction. C'est-à-dire c'est justement le temps qu'on met entre ça sonne et j'ai réussi à endiguer l'attaque. ce temps-là, déjà, être capable de le calculer est un challenge pour les entreprises. Ouais. C'est déjà quelque chose. Quand vous arrivez à le calculer, c'est top, parce qu'après, ça devient le indicateur principal. Un log4j est très intéressant, parce qu'en tant qu'incident de sécurité, entre le moment où la faille sort et le moment où je savais que c'était patché, j'ai pu calculer un MTTR pour mes clients. Donc, essayez de calculer votre MTTR et essayez de savoir quel est le taux de détection de votre prestataire SOC. Voilà, ça, c'est les deux messages qui sont derrière.
Oui, le prix, parce que...
Je m'en doutais que les prix, j'accélère un petit peu, Peter, promis.
Le SOC classique, le SOC du pauvre, le SOC du riche aussi, parce qu'au départ, c'est le SOC du riche quand même.
Bah déjà, il faut être un petit peu riche, hein, parce qu'un SOC, forcément, ça coûte quelques milliers d'euros. Oui. Le SOC du pauvre, je l'ai repris d'une présentation la semaine dernière d'un client qui parlait de ça. Je ne sais pas si le terme est bien choisi. Le SOC classique, on le connaît, hein, on met des antivirus, on met des sondes réseau, on met des SIEM, on met plein de use cases, on a un gros QRadar. On espère que 70% des règles vont fonctionner. C'est à peu près ce qu'on voit quand on audite ces règles. Et globalement, je pense que c'est beaucoup plus bas que ça. Et c'est très compliqué de savoir si elles règlent, est-ce qu'elles sont tunées, est-ce qu'elles sont maintenues. En général, il faut beaucoup de monde. Donc forcément, c'est coûteux, c'est complexe. Après, si on a les compétences et les moyens pour pouvoir le faire, on peut tirer plein de choses de ces solutions. Et c'est ce qu'ont fait les banques, les grandes structures et sur lesquelles elles se sont équipées. Et l'objectif, c'était de détecter. Le SOC du pauvre, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. C'est des clients qui n'ont pas les moyens de se doter de tous ces outils aboutis. Bah, ils cherchent le meilleur retour sur investissement. Et là, je le dis clairement, vous faites un EDR managé en 24/7. Vous faites de la prévention, vous faites de la détection, vous faites de la réaction. Par contre, vous ne voyez que ce qui se passe sur la endpoint, tout ce qui se passe sur le réseau, vous ne le voyez pas trop. Mais excellent moyen pour démarrer son SOC aujourd'hui. Aujourd'hui, Advanced CSM, on a dépassé, je crois que c'était au début du mois, on a dépassé les 400 000 endpoints managés en 24/7 en Europe. Donc il y a 400 000 serveurs et postes de travail qui sont sous la surveillance en temps réel du SOC Advanced CSM. Le SOC moderne, alors effectivement, il fait rêver, on a envie d'aller là directement. Alors passer du SOC classique au SOC moderne, c'est très compliqué. Passer du SOC du pauvre au SOC moderne, c'est assez simple. Donc ça, c'est autant commencer comme ça. Si vous êtes là à gauche, on en reparlera, si vous voulez, comment passer sur le SOC moderne. Le SOC moderne, c'est notamment toute la notion de triade qui est décrite par le Gartner. C'est d'avoir un SIEM avec du comportemental. Donc on revient sur l'IA et le machine learning. Des sondes réseau et un EDR. Et en fait, c'est l'EDR, le NDR et le SIEM qui forment les trois grands moyens qu'on a détectés. Donc on couvre complètement. L'objectif, ce n'est pas que de détecter, c'est ce que je disais en introduction, c'est de prévenir, c'est de détecter et c'est de réagir. Le seul souci de cette approche, c'est que ça manque encore de maturité, clairement. Et puis, il y a des choix d'éditeurs qui sont un peu compliqués. Il y a Palo Alto qui est venu me voir, ils ont le XDR Magic Plus qui lave plus blanc que blanc. Ça a l'air vraiment génial, je vais mettre du Palo Alto. Puis après, j'ai vu CyberEason, c'est pareil. Et puis, il y a CrowdStrike qui est passé par-dessus. Donc, on se fait emmener un peu par le discours des éditeurs et puis on a du mal à savoir quelle est la vraie technologie. J'allais dire qu'une des réponses, c'est déjà collecter votre data, mettez tout dans un endroit et puis après, on va pouvoir mettre des technologies et elles pourront évoluer. Mais vous devez vous mettre dans une capacité de dire si dans 2 ans, il y a une nouvelle technologie qui sort, je dois pouvoir switcher rapidement sur cette nouvelle technologie. Je parlais des banques. Je connais une banque qui est encore sur du RSA Net Witness, qui est une technologie qu'on ne voit plus du tout en termes de SIEM. Mais ils ont tellement développé dessus, tellement investi dessus, qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Alors que s'ils avaient d'abord fait de la collecte pérenne, intelligente, enrichie, normalisée, pour pouvoir switcher leur système de détection, bah ils pourraient du jour au lendemain dire bah « moi je veux un autre système, je vais passer sur du Splunk, je vais passer sur… »
Donc ils sont bloqués.
Ils sont bloqués, voilà. Donc ça, c'est le sujet du SOC moderne, c'est attention aux choix technologiques, mais clairement aujourd'hui, c'est prévenir, détecter et remédier.
Parfait.
Voilà.